Donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne.
Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
C'est bon pour vous ?
Non.
Pour quoi faire ?
Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?
Parlons-en. Parmesan.
Non, parlons-en.
Oui, parlons-en.
Parlons-en.
L'émission des étudiants de Paris 8
sur Radio Campus Paris.
Et bonsoir Paris 8, bonsoir, bonjour. Il est exactement 10h30, vous vous réveillez chaleureusement avec une tasse de café et vous êtes sur les ondes de Radio Campus Paris. C'est l'heure de l'émission Parlons-en.
Parlons-en.
L'émission des étudiants de Paris 8
sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Parlons-en, une émission proposée par les étudiants de l'université Paris 8. Bonjour Maxime.
Bonjour, au sommaire ce matin, on va parler de pouvoir, sous différents angles.
Également au programme, un micro-trottoir réalisé par Jenna et Ella, et des chroniques réalisées par Noélia sur l'IVG, par Selim sur la soif de pouvoir, par Lina sur le pouvoir au théâtre.
Voilà, vous avez le programme et tout de suite, on commence en musique, on écoute Power.
I'm losing control. I let you come take the wheel on me.
On vient d'écouter Power du groupe Little Mix. Et tout de suite, on accueille nos reporters Ella et Jenna. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc baladés dans la fac
oui.
avec une question.
Exactement.
Et c'est quoi cette question ?
Alors la question était ce que le mot pouvoir évoquait pour les étudiants ou les autres personnes qu'on rencontrait sur les campus.
Et qu'est-ce que ce pouvoir pour vous, chez vous ?
Alors, on écoute votre micro-trottoir.
C'est quoi le pouvoir pour toi ?
Pour moi, le pouvoir, c'est l'argent. Quand tu as l'argent et tu as le pouvoir.
Pour moi, le pouvoir, il réside dans le statut social. Et oui, pour moi, avoir un bon statut social, c'est détenir du pouvoir.
Après, l'argent ne fait pas tout. Mais quand même, ça peut régler des situations, on peut dire.
Ben, pour moi, le pouvoir, c'est la richesse. Hein. Ça te permet de faire beaucoup de choses.
Pour moi, le pouvoir, c'est genre l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Genre, quand tu réussis à influencer les autres, tout ça, sans faire trop, tout ça, ça, pour moi, c'est un pouvoir. Après, il y a le pouvoir financier, tout ça, aisance sociale, parce qu'on va pas se mentir, quand t'es bien, il y a quand même, vas-y, tu peux te permettre de faire certains trucs.
Et c'était le micro-trottoir de Jenna et Ella. Merci beaucoup à vous deux. Comment avez-vous vécu votre expérience ?
Ben, tout s'est très bien passé. On n'a pas eu de mauvais retours, des gens qui s'y imposaient à répondre à notre question. Et j'ai aussi trouvé que les étudiants, ils avaient beaucoup de choses à dire sur le pouvoir. Et aussi de voir que les différents angles
ouais.
et qui pouvaient aborder avec juste ce simple mot qui a ce mot pouvoir qui est effectivement très puissant. Ouais.
D'accord. Bah, merci beaucoup à vous.
Merci.
Le pouvoir, c'est la puissance. C'est vrai. On ne l'aura jamais aussi mieux dit. Et merci en tout cas à vous deux. Et je crois que c'est maintenant l'heure de la chronique de Noélia sur la soif du pouvoir. Noélia, yo.
Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Je viens d'Argentine, je porte un foulard vert qui est le symbole de la lutte féministe dans mon pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une avancée historique pour les droits des femmes en France qui impacte le monde entier.
Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Il sera transmis à Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. La séance est levée.
C'était le 4 mars dernier à Versailles. Devant les députés et les sénateurs, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, annonce le résultat d'un vote historique. 780 voix pour, 72 contre, 50 abstentions. Le Parlement vient d'adopter l'inscription de l'IVG dans la Constitution française.
Eh bien, Noélia, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la situation ?
Pourquoi c'est historique ? Tu vas me demander, Maxime ?
Oui, je me posais historique. Également cette question, en fait.
Ouais, c'est historique parce que la France devient maintenant le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Qu'est-ce que ça change ? Aucune loi ne peut désormais s'attaquer à cette liberté. Cette protection est un exemple pour les droits des femmes face à l'avancée des ultra-conservateurs dans le monde entier. En Argentine, par exemple, le droit à l'IVG a été adopté en 2020. Pourtant, le nouveau président d'extrême droite, Javier Milei, pense revenir dessus. Donc, si l'IVG était inscrite dans la constitution de mon pays, elle ne serait pas aujourd'hui un droit en danger. Voilà à quoi ça sert.
Et c'est donc une nouvelle page essentielle dans le combat historique des femmes pour leurs droits en France.
Exactement. Rien n'aurait été possible sans le combat des femmes. En 1972, Marie-Claire Chevalier, une fille de 16 ans, est jugée pour avoir avorté après un viol. À l'époque, en France, l'avortement est puni par la loi de 6 mois à 2 ans de prison. Son avocate, Gisèle Halimi, montre devant le tribunal de Bobigny l'injustice de la législation en vigueur. Marie-Claire a finalement relaxé et le sujet de la légalisation de l'IVG s'installe dans le débat public. 2 ans plus tard, la loi légalisante de l'IVG est portée par la ministre de la Santé, Simone Veil, devant l'Assemblée nationale.
Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
La loi est promulguée le 17 janvier 1975. Elle est aujourd'hui renforcée par son entrée dans la Constitution, rendue possible grâce à la continuité du combat pour les droits des femmes.
Et alors, concrètement, aujourd'hui, Noélia, c'est quoi la situation de l'avortement en France ?
Toute femme qui veut avorter en France peut le faire jusqu'à la semaine 14 de grossesse. Ce n'est plus seulement la loi qui le garantit, c'est désormais la Constitution. Le vendredi 8 mars à la place Vendôme, lors de la cérémonie de scellement de la Constitution, la chanteuse Catherine Ranger revisitait la Marseillaise pour célébrer cette victoire historique.
Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution.
Bien, merci beaucoup Noélia pour cette chronique. Merci.
Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un instant, on écoutera la chronique de Selim sur la soif de pouvoir, mais d'abord une petite pause musicale. C'était Run the World de Beyoncé.
Et vous écoutez toujours Parlons-en sur Radio Campus Paris. Et il est l'heure d'accueillir Selim.
Bonjour.
Yo Selim. Hey. Ce matin, tu nous présentes ta chronique.
C'est ça.
Qui est donc sur...
La soif de pouvoir.
Et donc, nous sommes impatients de l'entendre.
Donc, la soif de pouvoir est un aspect engrainé de la nature humaine, poussant les personnes et les nations à chercher et exercer dominance, contrôler et influencer. Cela mène généralement à de l'ambition, de la compétition, parfois au conflit. Cependant, la soif de pouvoir peut aussi aider à l'innovation, au progrès et à la naissance d'un leadership quand celui-ci l'exerce avec responsabilité et précaution. La poursuite du pouvoir peut mener à de grands achèvements ou à la destruction. Tout dépend de l'intention et de ses valeurs. C'est un aspect très complexe de la nature humaine avec des conséquences soit négatives ou positives. La soif de pouvoir consume parfois les personnes qui essaient de l'obtenir, les rendant ainsi assoiffées, ce qui peut engendrer des conséquences désastreuses. La soif de pouvoir est aussi un aspect intemporel de la nature humaine, poussant les individus et les sociétés à chercher la dominance et le contrôle. Cela conduit souvent à de l'ambition, de la compétition et même parfois au conflit.
Waouh. Eh bien, écoute, Selim, merci pour cette chronique sur la soif de pouvoir.
Tout plaisir est pour moi.
Et avant de conclure cette émission, place à la chronique de Lina sur le pouvoir au théâtre. Bonjour Lina.
Bonjour à vous deux. Eh bien, j'ai essayé de faire mes recherches sur cette question qui est comment est le pouvoir au théâtre. Et donc, sachez, mes chers auditeurs et auditrices, que l'acteur ou le comédien détient en lui un certain pouvoir, des capacités que lui seul peut les exploiter sur scène, sur une scène de théâtre. Ce genre de pouvoir que l'acteur ou le comédien, cette capacité qu'il détient, debout sur scène, tout en interprétant un rôle qui n'est pas sien, menant une vie qui n'est pas sienne, cette personne même possède ou détient le pouvoir ou la capacité d'interpréter à elle seule ou à lui seul un événement théâtral. On le considère comme étant le lien vivant entre le texte de l'auteur et les directions du metteur en scène, mais aussi le messager du public, celui qui délivre le message codé de la pièce interprétée aux oreilles du public. Or, il détient un pouvoir envers le public qui lui accorde une oreille attentive. Il est le point central de toute description du spectacle. Et donc, je vous partage un petit extrait du livre écrit par Ivana Tchubak, intitulé « Le pouvoir de l'acteur », où elle dit dans son livre qu'il y a plus de 2000 ans maintenant, où Aristote définissait l'essence même du théâtre, la lutte de l'individu pour atteindre ses objectifs, batailler pour vaincre les obstacles, or ses propres sentiments lors du jeu sur scène.
Eh bien, merci beaucoup Lina. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Colin et Pierre-Yves de nous avoir aidés à créer cette émission de toutes pièces.
Merci à vous.
Merci à
merci
vous.
Merci.
Et d'ici là, restez à l'écoute sur Radio Campus Paris. À bientôt pour une autre matinale.
Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, il est 10h52 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de l'émission Parlons-en.
Donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne.
Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
C'est bon pour vous ?
Non,
pourquoi faire ?
Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?
Parlons-en.
Parlons-en ? Parmesan.
Non, parlons-en.
Oui, parlons-en.
Parlons-en.
L'émission des étudiants de Paris 8
sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons-en, une émission proposée par les étudiants de l'Université Paris 8. Bonjour Laura.
Bonjour Selim. Au sommaire ce matin, une chronique de Ella qui va nous lire des poèmes iraniens, une chronique de Michel sur les aspects politiques des pouvoirs, et on écoutera ensuite le micro-trottoir de Maud et une interview de Laura, de Maud et de Marisha.
Vous avez le programme et tout de suite on commence par une musique de Tattoo de Laurine.
Thank you.
vient d'écouter Tattoo de Laurine. Et tout de suite, on accueille notre reporter Maud.
Bonjour.
Bonjour. Alors du coup, Maud, tu t'es baladée dans le campus de l'université avec quelles questions ?
Je me suis présentée déjà, et puis après je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous feriez en tant que président, donc concrètement à la place de Macron.
D'accord.
Et c'était une question un peu compliquée, parce que dès que ça parle de politique, les gens sont assez fermés, ils veulent pas trop exprimer leur opinion. Donc c'est vrai que je me suis fait plusieurs fois recaler par les étudiants, mais malgré ça, c'était quand même intéressant d'avoir les avis des nombreux étudiants qui ont accepté de me répondre.
D'accord, bah nous allons écouter ce micro-trottoir tout de suite.
Enfin, micro-trottoir pour l'atelier Radouille, on voudrait savoir qu'est-ce que tu changerais à la place du président ?
La régularisation des sans-papiers.
C'est trop bien,
super. Merci beaucoup.
J'avoue que je ne m'y connais pas tellement en politique, même si c'est ma résolution de plus m'informer en politique. Après, il y aurait beaucoup de choses, notamment pour ce qui s'est passé avec Depardieu, donc ça...
C'est pas forcément une réponse.
D'accord,
désolé.
Merci. Non, pas de soucis.
De façon générale, je donnerais plus de liberté et d'égalité aux gens. Voilà, après je sais pas trop.
D'accord, c'est déjà un très bon programme. Je voterai pour toi à la place.
Ouais, merci.
Qu'est-ce que tu ferais à la place du président Emmanuel Macron si tu aurais tous ses pouvoirs ?
Je sais pas.
C'est un peu, ouais. Au revoir, merci.
Prendre plus d'initiatives. Genre là par exemple pour les JO, rien n'est prêt. Donc c'est assez drôle. Et prendre plus en considération les choses qui ne vont pas dans le pays. Quoi, parce que du coup c'est quand même un problème récurrent au fil des années. Et je dirais aussi ce qui va être pour les guerres et les choses du genre, savoir mieux choisir son camp entre guillemets.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci,
bonne journée.
Bonne journée.
Qu'est-ce que vous changerez si vous êtes à la place d'Emmanuel Macron ?
Droit porté ça.
Moi je ferai un référendum qui peut me rendre révocable à tout moment. Si plus de 50% des Français a choisi que je devais dégager, je dégage.
Okay. D'accord, ok.
Voilà.
Ouais, mais ça va être trop long, en plus...
On a le temps, t'inquiète.
Ouais, mais moi, je suis désolée.
Juste une petite idée, sinon.
Ok, mais il n'y a pas de soucis.
Pas
de
C'est une fin d'enregistrement.
Et donc, merci Maud pour ce micro-trottoir. Donc, comment tu as vécu cette expérience, même si tu nous en as parlé un petit peu au début ?
C'était très intéressant. J'avais jamais expérimenté ça, enfin d'utiliser un micro et tout ça. Et franchement, j'aimerais bien le refaire avec une question peut-être un peu plus ouverte qui laisserait la possibilité aux gens de plus répondre. D'accord. Sans pour autant avoir peur d'être jugé ou quoi que ce soit.
Ok.
Merci à toi, Maud.
Merci à vous.
Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Michel. Bonjour à toi, Michel.
Bonjour, Radio Campus Paris 8. Bonjour, donc ici Piu Piu, votre apprentie chroniqueuse qui va plancher aujourd'hui sur le pouvoir. Car déroutée par ce bougli-boulga servi non-stop sur les ondes par nos gouvernants et consorts. Alors, quelques rappels pour la route. Dans le système politique de la République, la séparation des pouvoirs est recommandée par Montesquieu. Mais pour le pouvoir religieux, il va falloir lâcher les gros mots. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors en France, après une intense période de monarchie absolue de droit divin, le pouvoir spirituel, religieux, a été sécularisé, est entré dans le siècle, dans le temps. L'un temporel et public, l'autre spirituel est déclaré privé. Et cela au nom de quatre grands principes, et non pas de valeurs, de grands principes. La liberté absolue de conscience, l'égalité et la non-discrimination, la séparation du public et du religieux, et la neutralité de l'État, lequel doit s'abstenir quant aux religions. Alors, dans la sphère anglo-saxonne, au tribunal, on jure sur la Bible, mais comme l'explique la philosophe et musicologue Catherine Kinsler, c'est que on y présuppose l'existence du un transcendantal. Alors qu'en France, on ne présuppose rien puisqu'on a le droit de croire ou de ne pas croire. Donc au tribunal, on part du zéro, on ne jure pas sur la Bible. La laïcité, secular power, concept politique et juridique français, est le seul principe au monde à garantir ces quatre libertés énoncées et n'a rien à voir avec de laïcité. Mais le pouvoir des marchés, ah, le spirituel, ça c'est vendeur, le plaidoyer des marchés pérore, que l'être humain a besoin de spiritualité et des organisations avec business plan, trésorerie, marge sur les ventes d'objets, signes extérieurs de richesse ou de religion, car c'est égal. Donc des constructions humaines se disputent des parts de marché. Le marché juteux du spirituel, de l'esprit. En période de crise durable, de précarité exponentielle, la crédulité, ça c'est le refuge. Les marchandiseurs de la pensée, professionnels de l'aliénation, du formatage des esprits, faux monnayeurs des croyances, religieux ou non d'ailleurs, mythes de la croissance, de la dette, s'emploient au service de puissantes entreprises commerciales sectaires à méduser nos esprits afin, comme à l'époque baroque, selon Joël Heuillon, de suspendre nos qualités intellectives et nos prétentions au pouvoir. Alors, pour le confisquer, notre espace est bombardé d'informations, même maladroites, car une accumulation de maladresses est une technique. L'organisation de la misère et de la crédulité crée une clientèle. Dans la fabrique des imposteurs, le philosophe et psychanalyste Roland Gori démonte bien cette mécanique. Moralité, esprit critique et libre arbitre ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Ainsi parlait au micro de Radio Campus Paris 8 votre dévoué Piu-Piu. On écoute Bernard Lavillier, Pouvoir.
Merci beaucoup Michel pour cette fascinante chronique sur la politique du pouvoir. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un instant, ce sera l'interview de Marisha, mais d'abord une petite pause musicale. Survivors de Bob Marley. C'était Survivors de Bob Marley.
Vous écoutez toujours Parlons-en sur Radio Campus Paris et il est l'heure d'accueillir Maud qui va interviewer Marisha. Bonjour à vous.
Eh bien bonjour.
Bonjour.
Donc Marisha, aujourd'hui tu vas nous parler d'usurpation d'identité, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Quelles sont tes motivations pour ce sujet, sur l'usurpation d'identité? Quelles sont les circonstances qui t'ont conduit à choisir ce sujet?
J'ai toujours eu la curiosité, l'intérêt pour ce sujet et c'est dans le cadre d'un mémoire de Master 2 que j'ai décidé d'aborder ce sujet aussi bien à la croisée de la psychanalyse que du droit.
D'accord, c'est très intéressant. Mais d'ailleurs en parlant de ça, qu'est-ce que l'usurpation d'identité ?
Alors la définition d'un point de vue pénal, c'est l'utilisation de données personnelles en vue d'utiliser l'identité d'un tiers pour un usage frauduleux, un délit puni par la loi, au pénal.
Est-ce que tu penses ou est-ce que tu connais plusieurs cas d'usurpation d'identité ?
Effectivement, je me suis penchée sur trois cas
que j'ai évoquées dans mon mémoire, trois situations différentes. Donc la première consiste en une usurpation d'identité à visée sociale et économique, par exemple celle de l'immigré qui vient du fin fond de l'Afrique et qui est obligé d'acheter une identité pour pouvoir survivre dans notre pays ou ailleurs. J'ai pris aussi l'exemple de l'histoire de Christophe Rocancourt. Donc n'oubliez pas ce nom parce que bientôt il y aura un film qui traitera de son histoire. Alors lui c'est un escroc. Et puis aussi de Christophe Bourdin qui a fait beaucoup de tort à des familles et qu'on appelait le caméléon. Donc si vous voulez que je développe un petit peu ces deux personnages.
Oui, bien sûr. Allez-y, par exemple, sur Christophe Rocancourt.
Tout à fait. Alors, les histoires se ressemblent, mais elles sont quand même différentes. Donc, pour Christophe Rocancourt, aussi bien lui que Frédéric Bourdin, ce sont donc des gens qui sont nés en France, l'un en Bretagne, l'autre en Normandie, de milieux très défavorisés, avec des parents défaillants. Alors pour Christophe Rocancourt, lui c'est un escroc, il se fait appeler arnaqueur parce que pour lui ça doit être plus poétique. Mais bon, lui il sait d'où il vient, il sait qu'il veut prendre une revanche sur la vie et donc il se fait passer pour Rockefeller. D'ailleurs vous noterez que Rocancourt et Rockefeller, il n'est pas parti de rien quand même puisqu'il a conservé quand même la première syllabe de son nom. Donc il sait d'où il vient, il est né donc à Honfleur. Et dans les années 2000, il s'est fait connaître dans les médias pour avoir escroqué des acteurs hollywoodiens comme Mickey Rourke. Et voilà, donc il a été emprisonné pendant 6 ans. Il a purgé sa peine. Et voilà, maintenant il s'en est sorti. Il est marié, il a des enfants. Il est retourné à sa situation d'origine, c'est-à-dire en Normandie. Mais ce qui m'a surtout frappée, c'est l'histoire de Frédéric Bourdin, dit le caméléon. Alors pourquoi le caméléon? Parce qu'il avait une particularité, c'est de se faire passer pour un adolescent alors qu'il était adulte. Il a trouvé le moyen, par le biais de son entourage, d'emprunter l'identité d'enfant disparu aussi, notamment au Texas, un petit Texan. Il a vu une affiche avec un petit gamin qui avait disparu et il a fait croire aux institutions et à la famille qu'il était cet enfant disparu, alors qu'il avait ses yeux n'étaient même pas de la même couleur que cet enfant. Il a raconté des histoires en disant qu'il avait été enlevé par la CIA, qu'il avait été élevé en Europe, et tout le monde l'a cru. Et puis bon, bien sûr, ça s'est découvert, la supercherie, il a été condamné aussi. Mais alors lui, il est atteint du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que lui recherche à tout prix d'être un enfant et d'avoir une famille. Et d'ailleurs, dans toutes ses pérégrinations, il a aussi été accueilli et placé dans des foyers pour mineurs. Alors qu'il avait 30 ans, il se faisait passer pour un jeune homme de 15 ans et tout le monde le croyait. Donc c'est problématique parce que même pour l'enfant disparu, là, eh bien, la mère qui a été l'accueillir à l'aéroport l'a reconnu. Donc tout ça, c'est très de l'ordre de la psychanalyse aussi. On peut se poser beaucoup de questions. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser.
On va peut-être finir. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez en déduire?
Alors, en conclusion, eh bien, écoutez, les parcours sont les mêmes, y compris celle de l'immigré qui retourne souvent dans son pays. C'est une question de survie. Alors, l'escroc, c'est une revanche. Il veut se réparer en prenant aux autres ce qu'il n'a pas eu socialement. Pour Bourdin, bah, lui, il a voulu une famille qu'il n'a pas eue non plus. Donc ce sont des gens. Le point commun, c'est quand même d'être vif, habile, rapide, intelligent. Ils ont tout quitté pour être quelqu'un d'autre. Ils sont retournés dans leur région d'origine. Et pour finir, ils se sont réparés.
Bah, écoutez, merci beaucoup Marisha, c'était très intéressant.
Je vous en prie.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette interview. Et avant de clôturer cette émission, place à la chronique de Ella sur un des poèmes de Ferdowsi, un poète iranien. Bonjour Ella, on t'écoute.
Bonjour la radio de Campus Paris 8. Je veux parler d'un poète iranien qui s'appelle Ferdowsi. Ferdowsi est un poète iranien du Xe siècle. Il est surnommé le recréateur de la langue persane. Il a écrit il a écrit la plus grande épopée en langue persane qui s'appelle Le Livre des Rois. Ferdowsi a passé 30 ans à écrire le Shahnameh qui raconte l'oppression de l'époque ainsi que les attaques contre le pays. L'amour transparaît à travers cela. Victor Hugo raconte sa rencontre fictive avec le poète dans un court poème de la légende des siècles. Depuis qu'il existe, l'homme a cherché à découpler son pouvoir sur la vie et pensé trouver dans la nature des moyens d'y parvenir. Dans le Shahnameh, livre des rois de Ferdowsi, on cherche un remède aux deux principaux maux de l'humanité, le mal physique et la douleur de l'amour. À travers ces vers, l'amour est célébré comme une force transcendantale. C'est pour ça que je peux présenter ce poète afin de partager quelques poèmes évoquant le pouvoir de l'amour humain. Je vais vous lire un extrait du Shahnameh, l'histoire de Rostam et Sohrab. L'amour n'a pas de frontières, ni de race, ni de religion. Il unit les corps et les âmes, tel un puissant astre. Deux ennemis jurés, unis pour l'amour d'un fils, se retrouvent pères, oubliant leurs anciens cris. Dans ces vers-là que vous avez entendus, l'amour est une force unificatrice. Dans l'histoire de Bijan et Manigé, le poète écrit « L'amour est un pont qui traverse les abysses, unissant les royaumes et les ennemis. Deux amants maudits, bravant les interdits, unissent leur destin par un amour infini. » Dans ces vers, l'amour est la source de courage. Dans un autre extrait du Shahnameh, les conseils de Kekaous à son fils, l'amour véritable éclaire l'esprit et le corps et guide nos pas vers la sagesse et l'honneur. Un roi sage dispense à son fils les leçons de l'amour qui révèle et donne la raison. Dans ce poème, l'amour est décrit comme une source de sagesse. L'œuvre de Ferdowsi célèbre l'amour dans toutes ses dimensions. L'amour est une force qui unit, inspire le courage, guide vers la sagesse et éclaire le chemin de la vie. Merci.
Wow. Merci infiniment, Ella, pour cette chronique si poétique. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée.
Et merci à Marie Gonnet pour la prise de son et à Baptiste pour la réalisation.
Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur notre site internet radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Et d'ici là, restez à l'écoute. Bonne soirée.
Radio Campus Paris.
Il est 11h01 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de Parlons-en.
Donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne.
Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
C'est bon pour vous ?
Non.
Pourquoi faire ?
Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?
Parlons-en.
Parmesan.
Non, parlons-en.
Oui, parlons-en.
Parlons-en.
L'émission des étudiants de Paris 8
sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en, une émission socioculturelle proposée par les étudiants de l'Université Paris 8. Au sommaire ce matin, on va aborder le thème du pouvoir sous plusieurs angles. Et également au programme, une interview de Baptiste, réalisée par Maud, notre journaliste, des chroniques qui seront présentées par Marécha et Laura, et un micro-trottoir de réalisé par Michel et Ahmed. Voilà, vous avez le programme. Et tout de suite, on commence en musique et on écoute The Power de Snap.
Like a double round double on a heavily level.
d'écouter The Power by Snap. Et tout de suite, on accueille Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Armed et toi, vous êtes baladé dans l'université avec un micro. Quelle était la question que vous avez posée aux étudiants?
En fait, on a posé plusieurs questions parce que la notion de pouvoir, on ne savait pas trop comment aborder les étudiants, les copains sur le campus. Alors on est parti de est-ce que le pouvoir d'agir pour la planète ou alors, et puis on a eu des belles surprises, des femmes en particulier qui se sont exprimées sur le pouvoir, sur leur corps, voilà, plein de choses comme ça avec plusieurs petites facettes qui étaient très 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 sympas.
Très bien, alors on écoute votre micro-trottoir.
Vous pensez que vous avez du pouvoir ?
Oui, j'ai le pouvoir de décider ce que je veux ou ce que je ne veux pas.
Moi, je suppose que ça dépend en quel sens vous voulez dire pouvoir.
J'ai le pouvoir de décider de reprendre des études après 6 ans d'interruption, voire même plus.
Le pouvoir, par exemple, le pouvoir magique ou pouvoir faire quelque chose ?
C'est une question de pouvoir social, alors oui. C'est une question de pouvoir d'agir dans une société qui a plein de contraintes, alors beaucoup moins. Là.
Dans ma vie personnelle ?
Oui.
J'ai du pouvoir de décider pour mes enfants ce qui est bon ou pas bon.
Je sais pas, je peux jouer, je peux faire de la musique, etc. Ou le pouvoir en tant que, bah, déjà, tout ce qui est fantastique, un pouvoir magique, etc.
Si j'ai un super pouvoir.
Moi, oui, là, maintenant, toi, là, ici pouvoir. Et maintenant.
Ça sera remonté dans le temps. Ça me permettrait de revivre des moments de ma vie que j'ai aimés. Et là, je pourrais les revivre à nouveau, une deuxième fois.
Alors, je crois pas, non, mais si j'ai les cheveux rouges, éventuellement.
Ah, c'est du pouvoir.
Voilà. C'est, j'imagine que... Voilà.
Et ça te donne quoi comme pouvoir ?
On me regarde bizarrement parfois.
Ah oui, mais tu aimes bien ?
Non, pas particulièrement, mais j'en ai pas grand-chose à faire.
Quand on a des pouvoirs, on a des responsabilités.
Dès qu'on est assez grand pour avoir un libre arbitre, un esprit critique, rien qu'avec l'esprit critique, on peut changer les choses. Et si on a un peu de motivation, on peut changer les choses. Et les femmes peuvent avoir plus de droits et la planète peut être, entre guillemets, sauvée.
Je pense qu'on a tous le pouvoir de changer les choses, chacun à notre échelle, par contre. Parce que j'ai 18 ans... Donc j'ai pas encore le pouvoir de faire énormément de choses, mais plus tard ou avec plusieurs personnes, on a tous le pouvoir de faire de grandes choses.
Ok, et ben merci, voilà. Tu vois, ça n'a pas duré longtemps. Merci bien, bonne journée.
Merci Michel pour ce micro-trottoir, mais c'était vraiment intéressant, je trouve, et j'ai particulièrement aimé le jeune homme qui a parlé de ses cheveux rouges.
Yes,
yes. Le fait qu'on le regarde bizarrement dans la rue. Donc, comme vous avez écouté, c'était le micro-trottoir de Ahmed et Michel. Merci beaucoup. Mais dis-moi, Michel, comment ça s'est passé l'expérience pour vous ?
L'expérience, au début, il a fallu qu'on se jette à l'eau. C'était pas évident de trouver des questions comme ça de but en blanc. Et puis surtout que les étudiantes acceptent de répondre. Donc il fallait insister sur le fait que c'était pas très long. Il fallait dire ça, c'est comme tu veux, tu n'es pas obligé, etc. Et effectivement, Colin et Pierre-Yves nous avaient bien expliqué qu'une fois que c'était oui, là on pouvait prendre un peu plus de temps, faire des essais avec le micro. Oh, enfin voilà, donc
vous avez un petit peu abusé de votre pouvoir, hein, avec
pas
le micro.
Vraiment, non, on a juste laissé détendre les choses, quoi.
C'est
voilà,
c'est bien, merci Michel. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Marisha. Bonjour Marisha.
Bonjour. Alors, ma chronique, donc justement, parlons-en. Stop aux paroles vides. Ce matin, sortant de chez moi, je rencontre mes voisins. Bonjour, alors il pleut pas ce matin ? Non, pas ce matin. Ah, c'est super. Oh, ça va pas durer. Bonne journée. Je vais boire mon café au café de la gare, comme tous les matins, avant d'aller bosser. J'entends deux personnes papoter. T'as entendu chez Hanouna hier, il paraît que Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Ah non, j'ai allumé la télé juste quand on parlait de Brigitte Macron. Il paraît que c'est un homme déguisé en femme. Vous n'en avez pas marre de toutes ces paroles vides, stériles, qui s'entrechoquent, nous envahissent, qui ne disent rien, qui bourdonnent comme un bruit de fond, et comme ce flot de paroles incessant est épuisant et commence dès le matin, avec les enfants par exemple. Si tu ne termines pas tes devoirs, tu seras privé de jeux vidéo cette semaine. Ça fait 3 fois que je te demande d'aller te mettre en pyjama. Et oui, depuis l'enfance, on est baigné dans ce bruit de fond, ce brouhaha, dont on ne comprend pas toujours le sens. Justement, à propos des enfants... Michael Anderson, psychologue, a passé 30 ans à étudier la croissance des enfants avec le docteur Timothy Johnson, pédiatre, et ils prétendent que moins on utilise de mots, meilleur est l'impact éducatif. Bien sûr, éduquer des enfants passe par la parole. Il est important de discuter avec eux, de leur journée, de leurs rêves, de leurs amis, de leurs préoccupations. Mais en ce qui concerne les apprentissages, la discipline et la correction, parler moins se révèle plutôt être problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous avons tous été à leur place et nous le savons bien, sermonner les enfants ne marche pas. En revanche, toujours selon Anderson et Johnson, une méthode qui se révèle très efficace, c'est de leur apprendre avec peu de mots les conséquences de leur choix. Par exemple, un enfant qui n'écoute pas le conseil de sa mère de prendre un parapluie alors qu'il pleut va se mouiller pendant qu'il attend le bus. Ça alors, ils ont découvert l'Amérique. Ils prennent un autre exemple sur un enfant de 6 ans. Vous pouvez lui proposer la chose suivante. Si tu es habillé avant 9 heures, nous irons faire un tour au parc et ensuite au refuge pour animaux pour voir les chiots. Je vous épargne l'accent québécois, hein, bien sûr. Il sera 9 heures dans 45 minutes, donc tu as largement le temps. Puis à 9h05, vous pouvez lui demander « Il est 9h passé, es-tu prêt ?» Si l'enfant répond non, le parent peut conclure « D'accord, on pourra réessayer demain. Viens simplement me voir quand tu seras habillé. » Le parent est doux, il ne fait aucune leçon de morale, il ne critique pas son enfant et n'en fait pas des tonnes. Ils n'iront juste ni au parc, ni voir les petits chiots ce jour-là. Donc évitons les paroles inutiles, les leçons de morale, les conseils à deux balles, les paroles contre-productives et ne passons qu'un seul message. Toujours d'après Johnson Anderson. « Je suis là, je te surveille et je t'aime. » Est-ce vraiment aussi simple? Au Québec, peut-être. Donc commençons ce nouvel apprentissage de réduction de parole. Mais comment se faire comprendre avec un discours bref, succinct, clair? Cela ne doit pas être si compliqué, car l'homme a la faculté du langage. Enfin, il faut parfois reconnaître que l'homme est incapable de se faire comprendre. C'est ce qu'il pense quand il tente de se faire comprendre d'une fourmi, par exemple. Au lieu de se dire qu'il ne parvient pas à se faire comprendre, il préfère se mentir en disant que la fourmi est incapable de comprendre ce qu'il dit. Bon, chers auditeurs, auditrices, je vous retrouve dans 5 minutes. C'est la page de publicité. Mais voici de retour. Eh bien, il m'a fallu moins de 5 minutes juste de changer de lieu pour comprendre ce qu'est un message bref, clair, succinct. Oui, après ces déclarations sur les conseils d'Anderson et de Johnson, il m'a fallu les quelques instants au petit coin, à la toilette, comme disent les Québécois. Bref, vous aurez compris, aux chiottes, pour que tout s'éclaircisse. Mais qui a dit que la réalité était le lieu du désenchantement? Bachelard, je crois. Mais c'est tout le contraire, Bachelard, t'as rien compris? Moi, j'ai tout compris d'une pensée indépendante, du langage, d'un discours bref, succinct, efficace. Et vous savez comment? Je vous le donne en mille. Tout simplement en lisant les graffitis sur la porte des chiottes. Je cite « Je t'aime. Et si tu m'aimes aussi, appelle-moi au 06 27 40 32 10. » Encore un autre texte. Le 1er février 2020, Jean-Luc était assis à cette place, exactement là où tu es. Encore une autre. « En cas d'attaque atomique, cachez-vous sous cet urinoir. Personne n'arrive à le viser. » Louis Jouvet avait dit « Il faut mettre de la vie dans son art ou de l'art dans sa vie. Moi, assise sur le trône, réduite au minimum de l'existence, captivée par ces bribes de phrases, réduite elle-même à la plus simple expression, crue, sans filtre, j'existe pour les autres. J'exulte, je suis devenue fictive et je ne me dis que la phrase est un état à atteindre. »
Merci Marisha, merci pour cette chronique.
Parlons-en.
L'émission des étudiants de Paris 8
sur Radio Campus Paris.
Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un instant, ce sera l'interview de Baptiste par notre journaliste Maud. Mais d'abord, une petite pause musicale.
C'est le monsieur dort dehors. C'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
C'était Tout va bien de Aurel San. Vous écoutez toujours Parlons-en sur Radio Campus Paris et il est l'heure d'accueillir Maud. Bonjour Maud.
Bonjour.
Et ce matin, tu reçois Baptiste.
Oui, exactement. Baptiste qui est d'ailleurs enseignant à Paris 8 et spécialisé en musicologie. Donc aujourd'hui, Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Tu vas nous raconter alors ton parcours et tu vas nous partager tes convictions sur la musicologie. Déjà, quel est ton parcours et pourquoi tu as choisi ce chemin, quoi ?
Alors, c'est une bonne question. Mon parcours, il est assez classique, hein. Je suis un étudiant j'étais étudiant à l'université, donc j'étais à Paris-Nanterre, à Paris 8 aussi. Et puis, depuis, de fil en aiguille, on continue, on se plaît dans cet univers. Et donc, j'ai soutenu ma thèse en 2018. Et depuis, je suis chargé de cours à Paris 8 depuis 2021. Voilà.
D'accord, c'est vraiment un sujet qui te passionne, du coup,
ouais,
la musique.
La musique, oui, tout à fait.
Mais du coup, est-ce que tu as un sujet de prédilection ? Sur quoi porte ta recherche ?
Eh bien, justement, ma recherche porte depuis ma thèse et voire depuis mes mémoires de master sur les enjeux de pouvoir, justement, dans la musique. Comment les enjeux de pouvoir peuvent se formaliser, en fait, dans la pratique musicale. J'essaie de le montrer dans ma thèse et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je continue un peu ma recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Je suis des différents groupes de jazz parisiens et j'observe les répétitions, les concerts et comment dans les interactions, en fait, les enjeux de pouvoir entre eux peuvent se formaliser, mais aussi les enjeux de pouvoir de la société en général. Voilà.
D'accord. Tu as parlé de pouvoir de la musique. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors, la musique, déjà, il y a le pouvoir de la musique sur les affects, sur ce qu'on ressent quand on écoute de la musique. Ça, c'est quelque chose à laquelle on est tous sensibles parce qu'on est éduqués par des sons au quotidien depuis qu'on est né. Donc, et ces sons sont reliés à des affects précis. C'est pour ça que quand on est joyeux, on va écouter une musique qui a un rapport direct avec cette émotion-là. Et par extension, c'est aussi pour ça, je pense, que la musique est utilisée dans beaucoup de cultures pour guérir, en fait, mais aussi dans la nôtre. Hein, pour vivre un deuil ou un chagrin d'amour, on va écouter une musique particulière. Donc il y a ce pouvoir-là, mais il y a aussi le pouvoir dans la musique. C'est-à-dire quand justement la musique devient un espace où peuvent se jouer les enjeux de pouvoir, justement, dont je parle dans mes cours et dans ma recherche, peuvent apparaître les revendications politiques, etc. On peut faire passer des messages, justement. On peut utiliser la musique comme outil pour exercer un certain pouvoir.
Est-ce que tu penses que la musique peut encore faire bouger les choses ?
Oui, je pense, je pense que c'est évident parce que... la musique, aujourd'hui, elle se diffuse quand même de manière inédite avec les plateformes de streaming, avec les réseaux sociaux. Donc, une musique peut être accessible n'importe où, n'importe quand, très très vite, ce qui n'était pas le cas il y a même pas 100 ans. Donc, pour le coup, forcément, la musique, si on a un message à faire passer, c'est vraiment un moyen très très efficace. Et on le voit, là on est en mars 2024, il n'y a même pas un an pendant les manifestations contre la réforme des retraites, on avait la musique était omniprésente dans les manifestations et sur les réseaux sociaux. Je pense à la chanson Retraite, Climat, Même Combat, etc. C'est une chanson qui a plus de 180 millions de vues sur TikTok. Donc c'est vu à l'international, les médias étrangers en parlent, donc c'est des messages qui se diffusent à l'étranger, mais qui se diffusent dans les soirées techno, qui se diffusent dans les mariages, donc voilà, c'est... Oui, je pense que quand les consciences bougent, elles bougent aussi, et surtout peut-être par la musique, donc aujourd'hui, d'autant plus.
D'accord, mais justement, ces musiques sont créées donc par des humains, pour leurs convictions. Mais qu'est-ce que tu penses cependant de l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui se répand de plus en plus dans la création artistique et qui menace alors le métier artistique et qui risque de remplacer les artistes de demain, quoi.
Oui, ça, c'est un gros débat. C'est pas évident de donner une réponse parce que c'est quelque chose de nouveau, en fait. Hein. Donc, Donc moi, je suis assez prudent face à cette question. Je me dis d'un côté, effectivement, faut faire attention de l'usage qu'on en fait. Mais je pense que c'est surtout l'usage qui en fait le... c'est surtout l'usage qui détermine pour moi. Donc si on en fait bon usage, pour moi, c'est un outil comme un autre, créatif.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Baptiste.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Maud. Merci, Baptiste, pour cette interview. Merci. Et avant de conclure cette émission, place à la chronique de Laura. Bonjour, Laura.
Bonjour.
Vous ne le voyez tout, sûrement pas. Bien sûr, vous ne le voyez pas, mais Laura, elle est toute belle aujourd'hui.
Merci.
Toute maquillée, vraiment. Dis-moi, Laura, est-ce que tu aimes lire?
J'adore. Je lis tous les soirs et dès que j'en ai l'occasion. Du coup, j'aime allier l'utile à l'agréable en lisant des classiques comme 1984 de George Orwell. Ce livre m'a profondément marquée. Pour un très court résumé, l'auteur nous décrit la vie de Winston Smith et surtout son rapport et son point de vue sur le pouvoir en place. Il nous explique très clairement comment Big Brother s'est hissé au pouvoir et a réussi à manipuler psychologiquement les personnes. Dans cette société, le parti Big Brother contrôle tous les aspects de la vie des individus, comme le travail, les loisirs et même les amours. Selon le parti, il faut, je cite, « rejeter l'évidence qu'offraient les yeux et les oreilles ». Fin de citation. Ce qui montre qu'il veut enterrer toute pensée autonome que les personnes pourraient avoir. Il crée aussi la novolangue, qui est une langue avec très peu de vocabulaire, des mots simples et des signes, renforçant l'idée de ne pas penser par soi-même. La surveillance permanente est aussi une variable à prendre en compte dans cette société. Les individus sont surveillés par des hélicoptères qui tournent autour des immeubles, une espèce de télévision qui se trouve chez eux, qui ne s'éteint jamais. Elle voit tout et entend tout ce que les personnes font. Le parti encourage même les enfants à dénoncer leurs parents s'ils font des choses contraires à l'idéologie. On voit bien avec ces exemples que le pouvoir en place ne veut pas qu'il y ait de solidarité entre les personnes, ainsi qu'aucune forme de résistance possible. Donc, cette dystopie nous montre que le pouvoir a la capacité d'endormir les gens et de leur faire accepter des choses inacceptables. L'histoire nous l'a bien montré également. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire cette œuvre.
Ah oui, bien évidemment, 1984 de George Orwell, très bonne référence pour terminer cette émission sur le pouvoir. Et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée, Nesrine pour la réalisation et à la programmation musicale, et à Marie Gonnet pour la prise de son. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur notre site internet radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Et d'ici là, restez à l'écoute. Bonne soirée, bonne journée sur Radio Campus Paris. Au revoir.